France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Jacques Maillot, le premier de nos chansonniers, non seulement parce qu'il est un des plus brillants, mais aussi parce qu'il a beaucoup fait pour redonner son rang à cette belle tradition française, du théâtre des deux ânes au plateau télé. Jacques Maillot est en outre un fin chroniqueur de notre vie moderne pour le journal La Montagne, des chroniques rassemblées dans le livre Pointe d'actu qui vient de paraître et que nous évoquerons en chanson dans quelques instants. Mais d'abord, en ces temps difficiles, illuminons notre samedi matin par une charmante histoire d'amour.
Elle, c'était Eugénie. Et elle arrivait de Beaulieu. Et lui, c'était un petit titi de la banlieue.
Une histoire d'amour qui commence très bien. Il la rencontra un beau soir au cinéma. Aussitôt assis près de son fauteuil, il sourit en lui faisant un clin d'œil.
Elle lui répondit d'une pression du pied.
Il se mit à bredouiller.
Coucou, coucou, coucou. Comment que c'est vous appelez?
Eugénie, et j'ai de bons yeux.
C'est à Paris que vous habitez?
Non, j'arrive de Beaulieu.
Sacré Eugénie de Beaulieu.
Sacré, quels cheveux,
quels yeux.
Elle a un tas de choses qui font voir la vie en rose. Il ne savait pas qu'elle lui plairait tant cette pile potin de lilas blanc.
Malgré son rire bête,
à répétition, elle avait de la conversation.
Je suis crémière à Beaulieu, je bats le beurre et je mire les œufs. Je suis venue à Paris, c'est pour trouver un mari.
Sacré Eugénie de Beaulieu,
fit le petit titi de banlieue.
Il ne faut pas penser au mariage cérémonie.
Viens mon Eugénie, je vais te faire visiter tous les coins cachés de mon quartier. Et si ça te plaît pas qu'on soit tous les deux, ben je me passerai de tes beaux yeux.
Fâche pas mon petit titi, c'est le printemps, partons d'ici. Je t'emmène voir chez ma sœur, les mirabelliers en fleurs.
Je m'en fous de tes mirabelles, ce qui me plaît moi, c'est la bagatelle. L'amour, les petits oiseaux, une femme, et puis des marmots. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, ça y est, je suis fichu. Ma vie de garçon, eh ben salut. Elles vont me traîner par le bout du nez, devant le maire et le curé. Allez, 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 viens mon Eugénie.
Allez, Eugénie. Allez.
Une histoire d'amour qui finit très bien.
Je ne sais pas lequel fait la voix d'Eugénie, mais en tout cas, les frères Jacques, on les entend ici au sommet de leur art en 1958 dans ce petit bijou qui, en outre, était signé de Rhys et Barrier, vous savez, ce fantaisiste de la chanson qui n'était pas seulement interprète, mais également auteur pour les autres artistes de l'époque.
Thank you.
Ah, Kitsch, quand tu nous tiens, c'était le fabuleux orgamon de Klaus Wunderlich, cet artiste allemand aujourd'hui disparu, mais qui revisitait toute la musique avec cet instrument aux couleurs extraordinaires, vous venez de l'entendre, et là c'était en particulier les scènes de bal d'Elmsberger, vous savez, un grand classique de la musique viennoise qu'on entend souvent au concert du Nouvel An. Tout ça pour vous dire que, jusqu'à nouvel ordre, le concert du Nouvel An viennois est toujours maintenu au programme, espérons que au moins cette tradition-là va tenir.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et c'est le moment maintenant de retrouver mon invité, qui ne vient pas d'ailleurs pour la première fois, mais c'est toujours un grand bonheur que d'évoquer avec lui l'art des chansonniers qu'il connaît si bien. Alors tous les prétextes sont bons pour le faire venir, et en voici un nouveau, c'est la sortie du livre Pointe d'Actu, qui recueille toutes les chroniques ou une partie des chroniques qu'il a publiées dans le journal La Montagne, 30 ans de chroniques persiflantes aux éditions de Boré. J'ai le plaisir, vous l'avez compris, d'accueillir Jacques Maillot du théâtre des Deux Ânes, où nous allons nous rendre immédiatement quelques années avant la naissance du petit Jacques.
Je vivais depuis quelques semaines le plus charmant des rêves d'or. De bonheur, mon âme était pleine car j'avais l'espoir pour trésor. Toutes les femmes étaient jolies, le soleil brillait chaque jour. Je rêvais de mille folies, de succès, de gloire et d'amour. Et puis crac, maintenant c'est fini, j'ai pas gagné la loterie. J'avais mille chances de réussite, mon numéro 143. 1 et 4, 5, 5 et 3, 8, j'habite au 15, ça fait 23. J'ai 32 ans, donc 55, 5 et 5, 10, bien calculé. Eu 3 apéros sur le zinc, 10 et 3, 13, je suis sûr de gagner. C'est clair, c'est net et c'est précis, puis j'ai pas gagné à la loterie. J'espérais avoir de la chance et j'avais comme un bon garçon arrangé ma petite existence, primo je ne faisais plus de chansons. Vous me direz que c'était une affaire, pour vous d'abord c'est convenu. Ça n'était pas pour vous déplaire, vous ne m'auriez plus entendu. Mais vous êtes bien attrapé par lui, j'ai pas gagné à la loterie. Si j'avais été millionnaire, à tout le monde j'aurais fait des dons. Généreusement, sans manière, j'aurais distribué mon pognon. Entre nous, je vous le dis sans embâche, j'aurais pas lâché un pélo. Mais maintenant qu'a eu lieu le tirage, je suis paré, je peux faire le pharo. Je risque rien, mais le geste est joli, j'ai pas gagné la loterie. Si de gagner j'avais eu la chance, j'aurais voulu que Monsieur Herriot fût nippé avec élégance et prenne des airs de gigolo. Je lui aurais donné le choix entre un beau pantalon pas trop long, une jaquette qui plisse pas au ventre ou un joli complet veston. Il sera mal foutu toute sa vie, j'ai pas gagné la loterie. Si seulement j'avais mis dans le mille, tous les jours je serais allé au casino pour voir Cécile descendre son grand escalier. Chaque soir je l'aurais vu admirable dire au lait, je bien descendu. J'eus été là le soir immanquable où elle descendra sur le dos. Je serais pas là pour la petite sauterie, j'ai pas gagné la loterie. Si de gagner j'avais eu la veine, je me serais payé un beau château, un service de table en faïence et un porte-plume réservoir. J'aurais eu des tas de domestiques, des fourrures et des bijoux de prix. Vous me regardez d'un air bizarre parce que ça rime pas, je le sais bien. Mais mes rimes sont fauchées aussi, j'ai pas gagné à la loterie.
Des veines, c'était Raymond Souplex des Deux Ânes, hein, comme précise effectivement l'étiquette du disque. À l'époque, c'était comme ça. Jacques Maillot, bonjour.
Oui, bonjour Benoît. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait plusieurs théâtres de chansonniers dans Paris, et chaque théâtre revendiquait ses pensionnaires, puisqu'on était pensionnaires, et donc on disait du théâtre des Deux Ânes, du théâtre de 10 heures, du caveau de la République.
Voilà, et c'est pourquoi j'ai le bonheur aujourd'hui d'accueillir Jacques Maillot du théâtre des Deux Ânes, mais qui a commencé comme Jacques Maillot du théâtre de 10 heures.
Exactement, exactement.
Connu beaucoup de ces endroits. On peut dire aussi que cette chanson impeccable de Raymond Souplex, elle est typique du style chansonnier. Hein.
Ah, complètement. Elle est vraiment construite sur un modèle type repris plus tard par André Rochel. Ça rappelle beaucoup le style d'André Rochel, où il y a toujours ce gimmick qui revient. Qui dit, c'est pas gagné à la loterie.
Voilà, c'est ça, oui. Moi, j'aime beaucoup ces chansonniers chantants d'avant-guerre.
Oui, c'était formidable.
Noël et quelques autres. Aujourd'hui, les chansonniers sont moins chantants, mais ils continuent à croquer l'actualité politique, sociale et autres. Et vous en êtes le meilleur exemple. Mais ce que je ne savais pas, Jacques Maillot, puisqu'on a déjà eu le plaisir de faire quelques émissions ensemble, oui, c'est que vous êtes aussi un écrivain, un chroniqueur au journal La Montagne en Auvergne depuis 30 ans.
Oui, c'est un journal qui est cher à mon cœur parce que c'est le journal qui a été créé par Alexandre Varenne, qui a été ministre de la France, qui a été un grand député socialiste proche de Jean Jaurès. Et mon grand-père le connaissait très bien puisqu'il a été son conseiller municipal. Donc lorsque la direction du groupe en 1992 m'a demandé, Jacques, on aimerait que vous fassiez un peu ce que vous faites à L'Oreille en Coin, mais dans le journal La Montagne et dans les titres du groupe, j'ai dit, on va essayer. Alors au début, on m'a mis au milieu du journal, le dimanche. D'ailleurs, je suis toujours resté le dimanche depuis. Et puis après, j'ai glissé en dernière page. Voilà, je fais la dernière page depuis 30 ans.
Alors, il y a quand même une ombre impressionnante quand on écrit dans La Montagne. Enfin, même si elle est légère en même temps et drôle et fantaisiste, c'est l'ombre de Vialatte.
De Vialatte qui allait mettre au train sa chronique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas des mails. Donc, il allait gare de Lyon et il remettait ça au contrôleur du train.
C'est vrai.
Et le contrôleur du train, en arrivant à Clermont-Ferrand, remettait ça à un rédacteur de La Montagne. Et chaque semaine, il y avait la chronique d'Alexandre Vialatte publiée dans La Montagne. C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est un grand bonhomme, monsieur Vialatte.
Évidemment. Et vos chroniques, vous, donc, elles se rapprochent, au fond, on peut dire, de vos billets de chansonnier. Hein,
oui, c'est ça. C'est tout à fait différent de Vialatte, bien sûr. Mais c'est en rapport direct avec l'actualité.
Avec l'actualité, avec la société, avec la politique, avec beaucoup de sujets. Et puis, vous saluez aussi quelques personnages qui vous ont marqué. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, puisque Jacques Maillot nous fait le plaisir de revenir à ce micro, eh bien, on va évoquer justement quelques hommes, quelques femmes qui ont compté pour vous.
Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable.
J'aime pas le rock.
Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable.
J'aime pas le rock. Je vous dis que j'aime pas le rock.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Il n'aime pas le rock.
Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock.
Il n'aime pas le rock.
J'aborde le rock. Je méprise le rock. J'exècre le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable.
Oh mince, il aime pas le rock.
Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable.
Pourtant le rock c'est battre quoi.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non.
Ah, il n'aime pas le rock, Jean-Yann. Jacques Maillot, je ne sais pas si vous étiez nettement plus jeune que Jean-Yann. Vous l'avez découvert déjà quand vous étiez à Rion.
Ah oui, je l'ai découvert au collège. Ouais. On écoutait sous le manteau les émissions de Jean-Yann, dont cette émission qui m'a beaucoup marqué, qui était, je crois, sur Radio Luxembourg à l'époque, et qui s'appelait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor ». Et alors, il était là avec Daniel Prévost, Paul Mercet, et ses vieux complices, Maurice Vambi. Moi, j'étais bluffé par ce bonhomme, j'étais enthousiasmé par ce qu'il faisait et je ne savais pas qu'un jour je le retrouverais grâce à Philippe Bouvard au micro des Grosses Têtes.
Oui, on ne peut pas dire qu'il vous ait donné envie de faire ce métier puisque vous avez d'abord voulu faire du cinéma avant de faire de la radio ou de devenir un chansonnier. Donc ce n'était pas vraiment un modèle, mais enfin, c'était un inspirateur.
Ça a joué, je pense que ça a joué dans mes inclinations et mes décisions.
Et je me disais d'ailleurs, oui, puisque on avait déjà eu l'occasion d'évoquer un petit peu votre parcours, c'était amusant aujourd'hui de s'arrêter à quelques-uns des personnages qui vous ont marqué. Et donc, notamment Jean-Yann, vous êtes devenu ensuite assez proche à travers la radio.
On est devenu très amis et il m'a fait une surprise pour mon 50e anniversaire. Il est venu à la cérémonie qu'on avait organisée avec des copains, la fête. Et c'était Yannou Collard qui était au courant. Et elle lui avait dit, demain, je vais à l'anniversaire de Jacques. Il a dit, mais alors, moi, il faut que j'y sois. Et là, il est venu, il était avec Mimi Coutelier. Et c'est un moment inoubliable, parce que avoir Jean pour mon anniversaire, c'était, j'étais vraiment très touché. Et c'était un type formidable, c'était un type délicieux. Et quand on avait son amitié, c'était très, très fort.
Voilà, et inclassable, on peut dire. Il est difficile à tirer d'un côté ou de l'autre. Hein,
oui, oui, avec des procédés, là, par exemple, il est insupportable, il est inénarrable. C'est aussi des procédés de chansonnier qui ont été très modernisés par Jean. Énormément modernisé les choses.
Alors, dans votre livre, justement, Jacques Maillot, pointe d'actu, 30 ans de chroniques persiflantes dans la montagne, un choix donc que vous avez fait vous-même, j'imagine, parmi toutes les chroniques que vous avez publiées.
Oui, ça n'a pas été simple. On a fait ça avec l'éditrice, Florence Sultan, qui dirige les éditions, et puis un garçon de la montagne qui s'appelle Olivier Bonichon et qui nous a beaucoup aidés, parce que j'ai dit, moi, c'est vrai, relire mes chroniques, j'ai un jugement un peu difficile à porter. Et donc, ils ont sélectionné tout ça, ils m'ont demandé mon avis, je dis écoutez, je crois que c'est bien ce que vous avez sélectionné, ça correspond à ces 30 années.
Et justement, donc il y a des sujets très divers, on va revenir sur un certain nombre d'entre eux, mais il y a un certain nombre d'hommages aussi à des gens qui vous ont marqué, que vous avez aimé dans votre métier.
Oui.
Et tiens, après Jean-Yann, il y en a une autre que j'avais envie d'évoquer, on va écouter une de ses chansons, mais peut-être vous nous en dites un mot d'abord, c'est Anne-Marie Carrière.
Anne-Marie Carrière qui a beaucoup compté, parce que quand je suis arrivé au théâtre de 10 heures, elle m'a énormément aidé. C'était pas évident d'arriver dans ce cénacle qui était tenu par les grands chansonniers. Il y avait à l'affiche, il y avait Robert Rocca, il y avait Pierre Détail, il y avait Jacques Grélot venait encore un petit peu. Et c'est elle qui a insisté auprès de tous ces gens-là pour que je sois à l'affiche.
Et c'est une protectrice.
Oui. Puis alors après, quand je suis arrivé chez Catherine Anglade, elle avait le fameux kiosque de Madame Rose et elle m'a beaucoup soutenu et j'ai eu le plaisir, l'honneur de jouer une revue avec elle qui s'appelait Madame Rose est au parfum, revue dans laquelle je jouais Marcel Dassault.
Carrément. Alors vous étiez à vos débuts tout jeune.
Oui, complètement. Oui.
Alors, on va l'écouter, Anne-Marie Carrière. Elle a fait surtout des sketchs parlés en disque, mais j'ai au moins trouvé une chanson.
Oui.
Ça s'appelle Histoire de fesses.
Il faut d'abord que je vous dise un grand bonjour. Pour éviter toute méprise, on doit toujours saluer l'être que l'on aime avec bonté, pour pouvoir lui dire quand même ses vérités. Le chansonnier, par expérience, possède un chic pour engueuler sans qu'il y pense. Le cerf public. Or, ce soir, je ne sais comment vous reprocher. Ce qui, au fond, n'est qu'un très, très petit péché, c'est de bien moins rire aux finesses qu'à la bonne vieille histoire de fesses. Je dis cela pour la défense des pauvres poètes. Heureusement, je sais qu'en France, on n'est pas bête. Mais le public est difficile à dérider. Et les temps, c'est vrai, sont hostiles aux grandes idées. Alors les soirs ou sur la scène, papillés en main, le pauvre chansonnier se démène, souvent en vain. Il se réserve quelques mots par-ci, par-là. Le gros couplet qui fera rire, n'en doutez pas. Même les dames patronesses. C'est la bonne vieille histoire de fesses. C'est bien simple si l'on s'amuse toujours ainsi. Il va falloir montrer les muses en bikini. Et comme elles sont par nature effarouchées, au fond ce serait une injure à les fâcher. Quand on pense qu'au Moyen-Âge, les troubadours amusaient le bon peuple sage de mots d'amour. En notre siècle où personne n'est illettré, de plus en plus ça doit être effet du progrès. Rien ne met le public en liesse comme la bonne vieille histoire de fesses. J'ai l'air de faire la morale ou d'être aigri, alors que j'aime le scandale et que j'en ris. Ma réputation me regarde, mais entre nous, des histoires de corps de garde, j'en sais beaucoup. Ma condition de faible femme a commandé d'écrire des choses à fleur d'âme pour vous charmer. Or, cher public, vous méritez mon affection, car jusqu'au bout, vous avez suivi ma chanson, qui, connaissant votre faiblesse, s'intitulait Histoire de fesses.
Anne-Marie Carrière, choisie magnifique. Par Jacques Maillot.
Qui a été choisie tout d'abord par Noël Noël, puisque c'est Noël Noël qui l'a fait monter sur la scène du théâtre de 10 heures. Et je crois qu'il avait eu un sacré flair, Noël Noël, parce que c'était un énorme talent. Et on l'entend très bien dans cette chanson, c'est une vendeuse formidable.
Anne-Marie. Ouais.
Sur scène, elle avait un contact avec le public.
Il y a
public.
Le petit truc dans la façon de dire.
Il y avait un petit truc en plus, oui, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça, oui.
Et donc Anne-Marie Carrière, vous le dites aussi dans Pointe d'Actu, dans une de vos chroniques de la montagne, Jacques Maillot, elle a été précurseur d'une certaine façon parce qu'il n'y avait pas tellement de femmes dans les cafés de chansonniers ou dans les cabarets de chansonniers.
Oui, je pense qu'elle a été vraiment la première à ouvrir la voie de l'humour féminin parce qu'il n'y avait vraiment personne. Alors derrière, après, il y a eu une fille comme Sylvie Joly et c'est curieux parce qu'elles avaient la même formation. Sylvie était avocate de formation et Anne-Marie Carrière aussi. Elle a fait du droit et un jour, elle a voulu monter sur scène et je pense que toutes les humoristes aujourd'hui, femmes, et Dieu sait s'il y en a, elles peuvent donner un petit coup de chapeau à Anne-Marie.
À Anne-Marie Carrière, et vous le faites dans cette partie de vos chroniques où vous saluez quelques amis. Il y en a un autre qui est très important, qui vous a parrainé, je crois, dès vos débuts, et qui vous a accompagné notamment à l'Oreille en Croix, c'est Maurice Orgue.
Ah oui, c'est Maurice qui m'a présenté à Codou et Garetto.
Voilà.
C'est Maurice qui m'a présenté au théâtre de 10 heures.
Donc, c'était qui, pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Maurice Orgue
C'était le roi de l'Alexandrin. Il écrivait des Alexandrins comme on écrit à son concierge pour lui dire qu'il faut quand même ramasser correctement les affaires dans les couloirs. Il était extraordinaire, Maurice. Il avait une facilité d'écriture. Il était très exigeant. Il écrivait 10 pages d'Alexandrin. Il en gardait une. Il était très sélectif, mais c'était un bonhomme formidable et surtout très inventif. Même à 80 ans, puisqu'il est arrivé à un âge assez canonique, il continuait à chercher des systèmes de rire. C'est lui qui a fait les premiers monologues où le public devait trouver la rime, vous savez. Mais ça, c'est des inventions de Maurice. C'était un chercheur.
Un chercheur, et j'ai vu qu'il avait même un goût prononcé pour l'opérette et pour la chanson.
La chanson, alors, l'opéra, il était incalable sur l'opéra, il adorait évidemment l'opérette. Alors là, oui.
Alors, la scène parisienne à l'époque où vous faites vos débuts donc au théâtre de 10 heures, dans ce monde des chansonniers, elle comporte des personnages comme on a déjà évoqué Anne-Marie Carrière ou Maurice Orgue, mais aussi évidemment Jean Rigaud.
Jean qui m'a énormément aidé aussi parce qu'on se connaissait peu avec Jean. Et puis quand Amadou, Carrière, Orgue sont partis en tournée Carcinti à travers la France, Oléo qui était la patronne m'a dit « Jacques, vous allez partager l'affiche avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jean Rigaud ». Je dis « Alors Jean Rigaud, pour moi c'était déjà
une vedette.
Alors il était peut-être un petit peu déclinant, mais quel bonhomme formidable, généreux. Et alors lui, c'était une immense vedette. Il m'a présenté tout Paris parce qu'il connaissait tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Et ça, pour moi, ça a été des portes ouvertes formidables pour mon métier de chansonnier.
Dans un genre beaucoup plus réac, entre guillemets, il y avait Pierre-Jean Vaillard.
Alors Pierre-Jean, qui faisait les beaux soirs des 10 heures et qui avait cette étiquette, c'est-à-dire qu'il était violemment pas anti-gaulliste, il était pour l'Algérie française.
Et oui.
Donc il avait écrit des chroniques dans Minute, tout ça, donc il avait quand même une connotation un peu droite. En réalité, il n'était pas plus de droite que les autres, mais il était forcément très anti-gaulliste.
voilà. Un peu donc la scène de cette ancienne génération avec laquelle vous avez débuté.
Oui, j'ai travaillé avec Pierre-Jean, j'ai travaillé avec Christian Weibel, avec Robert Rocca.
Évidemment, Robert Rocca.
Alors, grand bonhomme.
On en a déjà parlé, mais on peut s'y arrêter encore 5 minutes, parce que Robert Rocca, contrairement à tout ce qu'on vient d'évoquer, il adorait la chanson et il la pratiquait aussi.
Ah, très très bien, il écrivait magnifiquement bien, et lui aussi, c'était un grand novateur dans notre profession.
Novateur au sens où
il a créé des systèmes, par exemple, à travers la boîte à sel dont certains se souviennent.
C'est drôle que vous parliez ça, on va la voir dans un moment, la boîte à sel, dites-nous. Oui.
Il a inventé des procédés mécaniques visuels, c'est-à-dire les montages en boucle. C'est-à-dire que, par exemple, je vous serre la main, cher Benoît, et à un moment, on se lâche la main. Et lui, il faisait des montages pour qu'on garde la main, et puis voilà, ça, c'était en boucle. Et surtout, il a inventé les fausses interviews. C'est-à-dire, vous me posez des questions et puis après, il change. Je fais mes réponses et après, il change les questions.
Ah oui.
Voilà, bah ça, c'est Robert Roca.
Ça, c'était Robert Roca. Et il aimait bien aussi le répertoire beaucoup plus ancien et historique des chansonniers, avec par exemple Nadeau, grand auteur du 19e siècle, dont il a interprété lui-même Roca, chantant donc ce petit morceau intitulé « Les impôts ».
Bien que j'aie une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas qu'on plaisante des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie des chats blancs et des chiens roux. De cette ménagerie, j'abhorre les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement, l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Dégrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants.
Tiens, l'indicatif de la boîte à sel.
La télévision vous prie de l'excuser pour cet arrêt momentané de l'image.
Si nous étions encore à la télévision, nous ferions aujourd'hui une revue de fin d'année.
Janvier 1960.
C'est l'hiver.
Il est né l'enfant à Bardot.
Il peut être fier. Il a une jolie maman. Interdite au moins de 16 ans.
Ah, voici le franc lourd.
Qui se mélange au franc léger, on s'y perd.
300 francs plus 2 francs, ça fait 500 francs.
Ou 100 sous, on sait plus.
Monsieur Debray est optimiste.
Mais il est bien le seul. Mais n'en a pas l'air.
À la télévision, j'aurais aimé parler politique avec Monsieur Pierre Tchernia.
En 1960, nous avons assisté à des remaniements ministériels spectaculaires.
Le nouveau ministre des Finances s'appelle Wilfried Baumgartner.
C'est bon pour les finances?
En tout cas, c'est excellent pour la diction.
Et nous avons également un nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Oui, le président de Gaulle aime à s'entourer de techniciens. Alors, pour l'Éducation nationale, il a convoqué les postulants éventuels. Il leur a donné une dictée à faire et M. Louis Jox a été nommé. Il n'avait fait que 3 fautes.
Et puis?
Et puis, nous perdons encore, si j'ose dire, M. Cornu-Gentil.
Le ministre des PTT?
Non, des PT. Sous son règne, les postes téléphones et télégraphes sont devenus les postes et télécommunications. Il avait raccourci le nom de son ministère.
C'était un ministre qui agissait. Enfin, M. Jacques Soustelle est parti.
Oui, alors pas de politique, vous en prie. En somme, sous les anciennes républiques, on renversait tout le temps le cabinet, mais c'était finalement toujours les mêmes ministres qui revenaient, tandis que maintenant, c'est toujours le même cabinet, mais c'est jamais les mêmes ministres. C'est ce qu'ils appellent la stabilité gouvernementale.
Résultat, on ne connaît plus les ministres, on n'arrive plus à s'y retrouver.
Et voilà, c'était un extrait des disques souples, vous savez, Sonorama.
Oui, magnifique.
Magnifique, oui,
oui. Magnifique collection.
Témoignage de toute une époque, parce qu'ils allaient interviewer un peu tout le monde, et là, en l'occurrence, c'est la boîte à sel.
Ouais.
C'est, alors, la boîte à sel, c'était où?
C'était à la télévision française, à l'ORTF.
Ah oui, c'était pas le nom d'un lieu par ailleurs.
Non, pas du tout. C'était fait en studio, c'était sur une idée de Pierre Tchernia et de Robert Roca et de Grélot.
Qu'on vient d'entendre, là, voilà.
Et dont ils ont arrêté l'émission, parce que un jour ils avaient un petit peu tapé fort sur le général et le directeur de l'époque, je ne sais plus qui était le directeur de l'ORTF à l'époque, avait dit désormais on enregistrera l'émission et Roca avait dit ben non ce sera en direct et il s'est arrêté. C'était un homme d'un caractère très fort, très trempé, Roca.
Il sentait la censure là qui se
pouvait
arriver.
Oui, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec notre époque, évidemment.
Voilà. Alors donc, en tout cas, vous-même, Jacques Maillot, vous avez connu cette grande génération des chansonniers qui avaient commencé pour la plupart juste après la guerre, voire même pour certains d'entre eux avant.
Avant la guerre, Robert Roca. Oui,
comme Robert Roca, vous êtes arrivé et vous, finalement, avez eu la chance, quelques années après, d'avoir un nouveau lieu pour reprendre le flambeau, ça a été la radio.
Oui.
Et ça a été en particulier L'Oreille en coin.
Oui, avec ces deux personnages exceptionnels qui étaient Pierre Caudoux et Jean Garretto. Deux personnages totalement antinomiques. Jean Garretto était le fils d'un aristocrate sicilien. Il s'appelait Paolo Di Garretto. C'était le Jacques Faisan italien. Il dessinait dans la Stampa, dans l'Osservatore Romano. Puis il avait un petit peu fréquenté un certain Mussolini. Donc ça lui avait valu une certaine disgrâce à l'époque.
Ah oui.
Parce que, voilà. Et Jean était un personnage très cultivé, très attachant, mais très discret, très austère, qui parlait peu. Et Pierre Caudoux, c'était le contraire. C'était un jovial, un homme qui était originaire de Perpignan et qui était un ancien hussard de la République. Il avait été instituteur, il avait une culture encyclopédique. Il adorait la République, il connaissait les conseillers généraux, les députés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'émission de chansonnier le dimanche matin dans L'Oreille en coin.
Vous dites l'émission de chansonnier. Pour vous, c'était un spectacle de chansonnier.
Ah oui, carrément. D'ailleurs, oui. C'était conçu comme ça, avec des chansons, des parodies qu'écrivait Pierre Sacca pour oui. Patrick Burgel, puis Yves Lecoq et tant d'autres après. C'était vraiment fait comme un spectacle de chansonnier. Et je crois que Caudoux et Garretto l'avaient voulu ainsi. Et il m'avait expliqué, il m'avait dit, de toute façon, les chansonniers seront éternels, on fera toujours du chansonnier. Et ça se justifie encore aujourd'hui.
Alors votre emploi dans la bande, il a été défini assez rapidement.
Assez rapidement parce que au début, ils travaillaient presque en solo. Ils ont eu Alex Métayer qui a fait L'Oreille en coin pendant 6 mois. Ils ont eu Jean Amadou qui a dû la faire pendant 1 an, mais il était tout seul. Et quand Amadou s'est arrêté, ils ont pris Maurice Orgue pour le remplacer puisque Amadou avait parlé de Maurice. Et Maurice a dit, moi je veux bien faire l'émission, mais tout seul je vais m'ennuyer. J'ai un garçon à vous proposer et c'est comme ça que je suis arrivé à L'Oreille.
Voilà, et vous y êtes resté pas mal d'années.
20 ans, voilà.
20 ans, avec des prestations assez diverses. Mais alors j'ai découvert quelque chose en réécoutant des documents de L'Oreille en coin, Jacques Maillot, c'est que vous êtes aussi un merveilleux imitateur.
Oui, j'adorais ça.
Ah oui?
Mais, oui, mais je crois qu'on l'est tous un petit peu. Et Jean Rigaud, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, avait commencé sa carrière comme imitateur.
Ah oui.
Jacques Martin aussi, c'était un formidable imitateur.
Ah
à
oui.
ses débuts, il imitait très très bien Charles Trenet, par exemple. Comme il chantait bien, c'était formidable. Et à l'époque, il ne serait venu à l'idée de personne de faire une carrière d'imitateur.
Ça faisait partie du métier.
Ça faisait partie du métier. C'était une sorte de tremplin, de marche pour faire ce métier. C'est Leluron qui en a fait une. Vraiment un modèle. Mais à l'époque, on était tous plus ou moins imitateurs.
Et Claude Véga, peut-être un peu.
Le grand Claude Véga, remarquable, remarquable.
Alors, justement, on va vous retrouver dans l'imitation d'un personnage dont je ne sais pas si vous l'aimiez ou pas, mais en tout cas, c'était un personnage, c'était Gaston Defer.
Oui, alors Gaston Defer, il impressionnait beaucoup parce que c'était un dur de dur. Il avait, on peut le dire, fait ma base sur Marseille à la Libération, etc. Et quand Jean Garretto nous a dit, on va recevoir Gaston Defer, et il nous invite dans son ministère, rue de Varennes, qui était ministère du Plan. Alors nous sommes arrivés, il y avait Jean Garretto, il y avait Françoise Morasso et moi, et c'est Edmond Charleroux qui nous a accueillis, Madame Defer, et qui nous a dit, Gaston arrive, mais il finit de signer des papiers, etc. Et d'un seul coup, on voit arriver Gaston Defer dans le salon. Il s'approche de moi et fait, alors il paraît que c'est vous qui m'imitez, il paraît que vous imitez très très bien, et ben vous allez nous servir l'apéritif en m'imitant. Alors je demandais, monsieur Defer, qu'est-ce que vous voulez? Alors il me disait un martini gin, alors j'ai dit, très bien, etc.
Et ça veut dire qu'il avait une voix très étrange.
Et oui, il mangeait ses mots.
Il mangeait ses mots.
Il mangeait ses mots, il ne bredouillait pas du tout, hein, mais il mangeait ses mots, c'est-à-dire qu'il aurait dit, mais du théâtre, vous êtes sur la musique.
Donc c'était un pont du parti de la SFIO, mais on avait du mal à le prendre au sérieux en même temps à cause de ce comportement et cette voix.
Il avait fait ce fameux duel, pour régler ses comptes politiques, etc. C'était un personnage hors norme, totalement iconoclaste.
Et alors on vous retrouve donc dans L'Oreille en coin, c'est en 1985. Ouais. Et vous êtes interviewé par... Enfin, la présentatrice va nous l'expliquer.
C'est la deuxième heure de L'Oreille en coin, toujours avec le public du studio 105 de la Maison de la Radio.
Alors imaginons par exemple, l'an prochain ou dans quelques mois, une interview de ce style de Monsieur Gaston Defer, qui sera Jacques Maillot, par Yves Mourouzi, qui sera Yves Lecoq. Alors attention, clap, ça nous intéresse, monsieur Defer. C'est parti.
Alors, monsieur Gaston Defferre, bonjour, vous êtes ministre, vous êtes maire de Marseille, et vous avez une longue carrière derrière vous. Je voudrais vous demander, tout d'abord, cela dit...
Attendez, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me pique la fesse, là, vous voyez. J'arrive pas à m'asseoir correctement en face de la caméra qui est là. J'ai un tout petit bout de fil de fer dans la chaise, vous voyez.
De fil de fer,
c'est très amusant. J'aime les gens qui ont de la propos, monsieur Morosi, vous savez.
Bien, merci, monsieur le ministre. Est-ce que nous pouvons commencer cet entretien politique, cela dit?
Naturellement. Je vais simplement... attendez, je lis plus mon texte, si vous me le permettez, desserrer le bouton de ma chemise, là, parce que ça me sert un peu. Vous voyez, ça me congestionne et j'en ai pas besoin.
Bien, alors, monsieur le ministre...
Oui,
monsieur le ministre, voulez-vous...
Non, mais c'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut pas avoir un bouton de col de chemise desserré. Hein. Nous sommes des hommes, vous savez, vous et moi, monsieur Morosi, il faut se faire savoir aux Français.
Hein? Oui. Ah, ça pourrait se la dire. Certainement, mais...
Oui, là, c'est Edmond, vous savez, elle me coupe mes boutons trop près. Elle a un défaut, elle serre trop les boutons. Je lui ai dit 20 fois, moi, je lui ai dit, écoute, desserre un peu les boutons, il n'y a pas moyen. Elle me regarde en ce moment, Edmond. Ah, je vais lui faire un petit bonjour. Bonjour. Edmond, un petit bonjour. Bon, vous disiez, Morosi, qu'est-ce que vous voulez me dire?
Je voulais vous dire, monsieur le ministre, vous demandez si dans la conjoncture actuelle, vous estimez que la gauche socialiste, privée des communistes et en cas de victoire de l'opposition législative, devrait opérer un virage vers le centre.
Oh là, c'est sérieux tout ça. Hein. Les téléspectateurs, ils veulent plus de ces choses-là. Hein. C'est fini, ça. C'est plus le genre de questions. C'est les bonnets. C'est vous qui avez fait la cassure, Morosi. Hein? Avec le président Mitterrand. On va pas retourner en arrière. Hein? On est là pour des interviews familières maintenant, alors on y va.
Mais il me semble, ça dit quand même, monsieur le ministre, que, étant donné la gravité de...
Oui.
Qu'est-ce
que vous me demandiez? Vous me demandiez quoi, là?
Non, je voulais savoir si en cas de victoire de l'opposition législative, la gauche socialiste...
Oui, préfériez pas que je vous donne des nouvelles de ma belle-sœur? Parce qu'elle était un peu mal fichue la semaine dernière. Et charmante, c'est une personne de qualité. Il faut que les spectateurs... connaissent quand même un peu notre famille, nous hommes politiques,
oui.
C'est normal.
Vous croyez,
hein? Alors
oui.
On y va.
Oui.
Thank you.
il disait, Gérard Calvi, le compositeur de ce bal de Madame de Mortemouille, en s'amusant que c'était le thème le plus bête du monde, parce qu'il y a trois notes, deux accords qui se répètent simplement à l'infini. Ouais. Et finalement, ça a été un succès énorme, ce bal de Madame de Mortemouille. Vous l'avez, vous, dans votre discothèque, Jacques Maillot?
Ah oui, bien sûr. J'ai beaucoup de disques de Gérard Calvi, que j'ai eu la chance de connaître à la SACEB avec mon copain Pierre Deladoé. Et on a des souvenirs merveilleux de déjeuner à la SACEB avec De Marny, Delanoé.
Dans la salle à manger des grands auteurs, des grands compositeurs.
C'était le bonheur. On a passé des moments délicieux. Et Gérard m'a impressionné beaucoup. Et il était très modeste. Et un jour, Maurice Sorg, qui le connaissait bien aussi, me dit, tu sais qu'il a été pris de Rome. Oui. Et après, j'ai beaucoup parlé de lui avec Robert Derry, puisque Robert avait fait ses débuts au Théâtre des Deux Ânes avec Colette Brossé. Et ils sont revenus quand j'ai repris la direction pour m'appuyer, etc. Et il m'a expliqué tout ce qu'il devait à Gérard Calvi, qui a fait toutes les musiques.
Parce que les Branquignols, on les associe plutôt au Théâtre La Bruyère.
Bien sûr.
Où ils ont eu tous leurs grands succès, comme La Plume de ma tante qu'on vient d'entendre. Si
produit par Georges Herbert.
Mais ils avaient commencé aux Deux Ânes.
Ils se sont rencontrés dans une revue des Deux Ânes, une revue de René Dorin. Ils se sont rencontrés tous les deux, et puis après, évidemment, ils ont fait la carrière extraordinaire tous les deux. Mais ils étaient restés très attachés aux Deux Ânes, parce que c'est vrai que c'était une sorte d'agence matrimoniale, les Deux Ânes. C'est Maxime a rencontré sa femme, que Robert a rencontré Colette Brossé. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés aux Deux Ânes.
Voilà, et je rappelle que vous avez acquis depuis de nombreuses années maintenant le Théâtre des Deux Ânes. Vous avez pris sa direction, vous l'avez fait revivre depuis 1995, avant de passer un peu la main aujourd'hui.
Petit à petit. C'est pas simple, parce que le théâtre est en grande difficulté actuellement.
Vous voulez dire à cause des événements qui nous concernent tous?
Oui, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, on se heurte à l'individualisme des comédiens, des humoristes. Et les Deux Ânes, c'est comme Brossé, c'est comme le Splendide. Il faut que ça marche en troupe. Il nous faut des troupes. Or, aujourd'hui, les jeunes ne font plus que des one-man shows. Et on a du mal à les faire cohabiter. C'est très
difficile.
Les
Branquignols, justement.
La troupe du Splendide, c'était une troupe. Les Deux Ânes, c'est une troupe.
Et on est au temps du one-man show, ça en dit long.
C'est le reflet d'une époque.
Un autre personnage que vous avez croisé et aimé, je crois, Jacques Maillot, même si pour le coup il n'est pas dans votre livre, mais que vous ne pouviez pas tout mettre, bien entendu, c'est Robert Lamoureux. Et notamment, d'ailleurs, j'ai vu dans une émission de L'Oreille en Coin, justement, où il avait même écrit pour vous, je crois.
Oui, on avait écrit un sketch ensemble et on a joué le sketch ensemble. Et j'adorais Robert parce que il venait voir tous les spectacles des Deux Ânes. Il voulait absolument que j'écrive une pièce de théâtre et surtout, il voulait qu'on fasse un film. Et on avait décidé d'adapter avec Georges Lautner, La Taupe, sa célèbre pièce de théâtre de boulevard. Et puis, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que Georges était fatigué, il commençait à être malade, donc on n'a pas pu aller au bout. Mais Robert a été un compagnon de route formidable et la dernière fois que nous sommes vus, nous étions allés voir l'ami Michel Leeb dans Madame Doubtfire et on avait passé une soirée mémorable parce que Robert était dans la vie d'une drôlerie et les commentaires de Robert pendant un spectacle, c'était à passer sous le siège.
Mais Lamoureux, je dirais un peu comme Fernand Reynaud, les intellos le regardaient un peu de haut quand même.
Tout à fait.
Parmi les humoristes.
Ah bah bien sûr.
C'était
pas
comme Raymond Devos, je veux dire.
Ah non. C'était une énorme vedette. Ouais. Et c'est vrai que Fernand Reynaud est arrivé après lui. Mais il a prouvé son talent avec ses énormes succès au théâtre, comme, si je puis me permettre, La Taupe, L'Amour Foot, qui sont des gros succès de boulevard. Et puis, on s'en rend compte avec le confinement, la fameuse 7e compagnie, qui est le reflet de ce qu'était la France en 1940. Hein. Il avait une plume magique.
Madame, vous savez, c'est pas méchant ce que je vais vous dire. Je vous regardais depuis un moment, fatalement, elle était à côté du bonhomme, et je vous regardais. Et ma mère a exactement la même robe que la vôtre, dites-vous. C'est un hasard, cette maman a exactement la même robe que vous, hein, Henri? Elle a exactement la même. Elle la met pas parce que... peur d'être ridicule, mais c'est la même... C'est marrant, ça. C'est un hasard. Vous l'avez mis juste pour venir ici, vous, non? Ah oui, parce que dans la rue, quand même, faut pas... D'accord, ça amuse les mômes, mais enfin, on peut pas... Voilà. Il y a des gens qui luttent pour se faire un jour un grand nom. Et qui luttent, et puis qui se disputent, et puis qui culbutent, sacré nom de nom. On devrait dire à ces gens-là, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un moment de la vie. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Youpla. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Y a des gens qui se battent pour devenir de gros potentats, et qui se battent, et puis qui se débattent, et puis qu'on éclate, sacré nom de là. On devrait dire à ces gens-là, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un moment de la vie. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Youpla. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Y a des gens qui peinent pour gagner beaucoup de gros sous, et qui peinent, et puis qui se démènent, et puis qu'on emmène un soir dans un trou. On devrait dire à ces gens-là, mais mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es qu'un maillon de la chaîne, tu n'es qu'un moment de la vie. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini. Youpla. Un moment de joie, de misère, et puis on t'enterre, et puis c'est fini.
En même temps, hein, c'est de l'humour noir, Jacques Maillot.
Ah, oui, mais il pratiquait l'humour noir volontiers dans la vie. On le voyait d'ailleurs avec l'histoire de la robe. Et alors, ce que vous venez de faire, c'est l'illustration parfaite de sa carrière, parce que Robert a commencé en faisant des chansons. Et puis, il faisait les commentaires qu'on a écoutés juste avant sur la robe de madame, vous l'avez acheté où, etc. Et puis, il s'est aperçu que ça marchait très fort. Et donc, il m'a dit, petit à petit, les commentaires sont devenus plus longs que ma chanson. Et à un moment, bah, j'ai arrêté de chanter, j'ai plus fait que des commentaires oui, et je suis devenu humoriste. Voilà.
Voilà, c'était Robert Lamoureux, évoqué donc par vous, Jacques Maillot, qui avait été d'ailleurs l'ami d'un certain nombre de chanteurs. Vous n'êtes pas chanteur du tout, hein.
Non, je chante sur la scène des deux ânes avec mes camarades.
Voilà.
Mais il me viendrait pas à l'idée
de... Vous n'avez pas fait de disque ou de...
Si j'ai fait un disque, justement, à l'époque de l'Oreille en Coin, il y avait eu les fameuses municipales qui avaient opposé Michel Dornano à Jacques Chirac, et on avait fait une parodie de Tout va très bien, Madame la Marquise.
Ah oui.
Et comme le comte Dornano était comte, on avait fait Tout va très bien, Madame la Comtesse. Et c'était Michel Dornano qui appelait sa femme à Deauville pour lui dire ma campagne va bien, tout va très bien.
Ouais. Ah voilà, donc vous avez quand même finalement. Mais en tout cas, vous avez été l'ami de chanteurs illustres, et notamment, par exemple, bon, évoquons-en deux ou trois, à vos tout débuts, avant même le théâtre de 10 heures, quand vous faisiez les cafés
les
et les cabarets de Paris, vous avez fréquenté Marie-Paul Bell, qui était comme vous, à ce fameux théâtre.
À l'échelle de Jacob.
On
a démarré
Jacob.
Quasiment en même temps à l'échelle de Jacob, avec Marie-Paul, et je l'ai vue quand elle a rencontré Françoise Malégeois. Joris, et qu'elles ont entamé cette collaboration, puis cette vie commune, et Marie-Paul est vraiment une de mes premières amies de métier, et j'adore Marie-Paul, c'est une femme de grand talent, c'est une formidable musicienne, et elle a fait une belle carrière, mais je pense qu'elle aurait pu faire encore plus, parce qu'elle est vraiment imprégnée de talent.
Vous faisiez des sketchs déjà à l'échelle de Jacob?
Oui, je faisais des sketchs, mais pas des sketchs très politiques. C'était plus des sketchs de la vie quotidienne. Et on s'adorait tous les deux et on a fait un bout de chemin ensemble. On a fait des festivals. Enfin voilà, elle était beaucoup demandée parce qu'elle a très vite démarré, Marie-Paul.
Puis aussi, alors des années plus tard, une sympathie, une complicité avec Gérard Lenormand.
Oui, alors on a fait une tournée avec Gérard et c'est là où on s'est découvert, on se connaissait un petit peu parce qu'il était originaire du Puy-de-Dôme, sa maman.
Ça crée des liens, évidemment. D'ailleurs, dans Point d'Actu, il y a même un chapitre sur l'Auvergne.
Ah oui, absolument.
Et sur le désenclavement de l'Auvergne qui est un grand sujet.
Ah, c'est un grand sujet. D'ailleurs, il y a eu une autoroute qui était assez significative que j'ai appelée la Bordeaux-Combrande, qui est une toute petite commune, parce que le président de la République, enfin l'ancien Valéry Giscard d'Estaing, ne souhaitait pas que l'autoroute arrive vers son château.
Ah.
C'était très dérangeant pour lui. Donc, il y a eu des parcours dessinés, un peu bizarres. Et un jour, elle est arrivée à Combrande. Personne ne sait où est Combrande.
Donc, l'Auvergne désenclavée, vaste sujet. Mais donc, c'est, oui... L'Auvergne qui vous a rapproché de Gérard.
Avec Gérard, et un jour on nous a proposé de faire une tournée d'été, c'était sous l'égide d'une marque d'apéritifs Alizé très connue. Le président de ce groupe m'avait été présenté, vous imaginez par qui? Par Charles Pasqua, qui venait de là. Et il nous avait dit, ça serait bien qu'on fasse une tournée d'été. Donc Gérard faisait la deuxième partie, et moi je faisais la première partie. Tout ça en extérieur, sur un podium, et je peux vous dire que c'était quand même difficile, parce que on a fait toutes les plages de France, nous sommes partis de La Baule, et on a fini à Menton. Donc, vous voyez, on a vraiment...
Sacré programme,
mais c'est des jolis souvenirs, et c'est là que j'ai découvert le talent de Gérard Lenormand, et je l'écoutais le soir, il n'avait que des tubes, ce garçon a...
On peut dire distiller les tubes. C'était une succession. Et le soir, c'était un tabac, quoi.
Et figurez-vous qu'il n'est pas encore venu à ce micro. J'espère qu'on va
Ah
on
oui,
va
mais c'est rattraper. Un garçon très attachant.
Et Nino Ferrer?
Ah, Nino Ferrer, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai connu aussi. J'étais étudiant à Clermont-Ferrand et on faisait le bal de la fac et on avait fait venir Nino Ferrer qui, à l'époque, faisait Mirza. C'était,
oui.
Je me rappelle, il nous avait impressionné. Il était arrivé avec une grosse Ferrari, etc. Il était impressionnant, mais il était d'une gentillesse terrible. Puis après, je l'ai retrouvé à l'Oreille en Coin et Pierre Sacca lui avait demandé de chanter des parodies sur Mirza, sur Gaston, il y a le téléphone. Il s'y est prêté de bonne grâce avec beaucoup de talent. Et après, j'ai connu ses musiciens. Il est avant tout un grand musicien. Et j'ai connu son fameux Baron qui était son saxophoniste. Ils avaient créé un studio, le studio Davout, ensemble. Et c'est un garçon dont j'appréciais le talent, la poésie. Et c'est un homme vraiment qui me manque beaucoup.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout noir avec les petites filles et les à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Et c'est normal, c'est le progrès.
La maison près de la fontaine, c'était évidemment Nino Ferrer. Merci de nous permettre de réécouter cette belle chanson, Jacques
Magnifique.
Maillot.
Magnifique, c'est une chanson d'enfance, quoi. Ça rappelle un peu ce qu'était la France à cette époque. Oui. On allait jouer dans le village, près de la mare aux canards, de la fontaine. Et c'est une chanson prémonitoire, puisqu'il termine en disant « c'est le progrès ».
Et alors d'ailleurs, cette transformation de la France, du paysage, elle est aussi au cœur de vos chroniques. Il y a des chroniques politiques, bien sûr. Des chroniques qui sont dans la tradition chansonnière, sur les personnages qui nous gouvernent. Mais il y a aussi simplement une observation de la société. Ça m'a frappé, par exemple, vous avez écrit il y a encore pas si longtemps que ça, des textes où, vous savez, ces hivers, dès qu'il y avait des grosses chutes de neige, la France était sans dessus-dessous, il fallait prendre des mesures spéciales. Et puis on est passé de ça, au contraire, à l'attente du froid désespérante, parce qu'à force de se réchauffer, on finit par demander si on aura encore de la neige. Et on voit comme ça les transformations du climat mental, je dirais, de notre société.
De la France. Oui, c'est vrai. La France a énormément évolué ces 20 dernières années. Et c'est vrai qu'il y a toute une France qui fiche le camp. Et il y avait une chronique qui m'avait épaté. Moi, c'était la chronique d'un chroniqueur gastronomique qui s'appelle Jean-Marc Simon, dans le Figaro. Il avait fait une très jolie chronique sur le thème « Cette France qui nous file entre les doigts ». Et moi, je lui avais demandé de l'adapter pour en faire un monologue sur scène, parce que il y a tout un tas de choses comme ça qui disparaissent et qui étaient la culture profonde de ce pays, de ce que Giscard appelait la France profonde, quoi. Ouais. Et c'est vrai que cette France, elle a complètement changé en l'espace de 20 ans, et c'est ce que vient de chanter admirablement Nino Ferrer.
Et puis, dans ce livre, alors je reviens aux hommages, il y a un autre personnage important pour vous, peut-être qui nous écoute d'ailleurs, c'est Philippe Bouvard, qui a été à la fois celui qui vous a fait débuter à la télévision, et puis qui vous a repris, si j'ose dire, à la radio, quelques années après Le Rayon Coin dans Les Grosses Têtes.
Oui, parce que Philippe, c'est vrai que ça a été le premier à m'accueillir sur une grande chaîne de télé, dans 10 de Der. Et alors après, quand on a été une découverte comme ça de Philippe, on devenait un petit peu son enfant, son obligé. Et quand il a lancé Les Grosses Têtes, moi j'étais déjà sur Inter avec Caudou et Garetto, il venait me débaucher régulièrement, et c'est Pierre Vigne et Jacqueline Baudrier à l'époque qui avaient dit « Écoutez, Maillot, c'est un peu notre propriété, etc. » Mais bon, ça s'est très bien passé. Mais Philippe est d'une fidélité telle qu'il ne vous lâche jamais. Ouais. Même dans les moments les plus difficiles, il a toujours été là. Et il est toujours là. La semaine dernière, j'avais un problème de téléphone. Et il m'avait laissé 5 messages. Et puis, on a fini par se parler. Il me dit « Mais alors, il t'est arrivé quoi ?» Je lui dis « J'avais plus de téléphone. » Ah, il me dit « Bon, bah, parce que voilà, on fait partie de la famille, avec le pouvoir. »
Et puis, au fond, autour de lui, c'est créé un peu la nouvelle bande des chansonniers, parce que on a évoqué ceux de l'époque du théâtre de 10 heures, etc., quand vous faisiez vos débuts, vos aînés. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu vous, il y a eu Bernard Mabie, il y a eu d'autres encore, qui ont relancé le métier, qui pour beaucoup sont passés, en tout cas, par les mains de Philippe Bouvard.
Chez Philippe, parce qu'il a un vieil antécédent. Philippe a démarré sa carrière, entre autres, comme attaché de presse du théâtre de 10 heures. Il connaissait bien tous les chansonniers. Et Oléo, dont je vous parlais, qui était la propriétaire, qui était la femme de Raoul Arnaud, a été la marraine de sa première fille. Donc il y a une vraie collusion entre Philippe Bouvard et les chansonniers.
Tiens, justement, Jacques Maillot, on vous retrouve là, dans Les Grosses Têtes.
En Suisse, ça se passe pas du tout comme ça. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui rentre le soir, il dit à sa femme, t'as passé une bonne journée? Elle fait, j'ai bien passé une bonne journée, oui. T'as eu de la visite? Oh, rien d'extraordinaire. Là, il y a un monsieur qui est arrivé, là, vers 3h de l'après-midi, il m'a dit, vous êtes bien Madame Valizère? J'ai dit, je suis bien Madame Valizère. Alors, il m'a pris dans ses bras, il m'a couché sur le lit, il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors, quand t'as été couché sur le lit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a déshabillé, il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors, une fois qu'il t'a déshabillé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a fait l'amour, mais il t'a rien dit, il m'a rien dit. Et alors, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a refait l'amour une deuxième fois, il t'a dit quelque chose, il m'a rien dit. Eh ben, il dit, on saura jamais pourquoi il est venu.
Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 2. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 3. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 4. Je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier
fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets flanel. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté.
Alors là, pour moi, vous savez, Jacques Maillot, c'est un vrai souvenir d'enfance de télévision, parce oui. que il y avait la bande à Bouvard, mais il y avait aussi la bande à Jacques Martin, qui n'était pas des moindres, et qu'on retrouve là tous ensemble, Piem, Daniel Prévost, etc., dans cette chanson, qui est une chanson folle, puisqu'elle occupe un disque entier,
oui, c'est ça.
Pour frapper à tous les numéros de la rue, etc., avec toujours ce refrain qui tourne en boucle.
Là aussi, c'est encore un procédé très chansonnier, où on oui, commençait par une ça. Ritournelle, ça rappelle le grenier de Montmartre, ouais. Les chansonniers, c'est exactement le même principe. Et Jacques l'avait très bien compris, et c'est pour ça qu'il s'était servi de ça pour faire le générique de ses célèbres émissions, La Lorgnette et le petit rapporteur.
Vous auriez pu en faire partie de cette bande-là, d'ailleurs.
Oui, j'étais un petit peu jeune. Moi, je démarrais, ouais. j'ai faisais mes débuts. Et quand on s'est retrouvé avec Jacques plus tard à Biarritz, il était déjà un peu fatigué. Et il me dit, vraiment, le regret de ma vie, c'est qu'on n'ait pas fait des tous les deux.
Ah oui.
Et on a souvent évoqué plein de choses, et il a passé la fin de sa vie là-bas, à Biarritz, et on passait nos soirées, on allait déjeuner, parce qu'on avait une passion commune qui était la gastronomie. Ah oui. Et donc on a fait beaucoup de déjeuners, de dîners tous les deux, où on parlait de choses comme on en parle nous actuellement, Benoît, où on évoquait des gens qui nous étaient chers et qui ont fait les grands jours du music-hall français. Et c'était une encyclopédie, ils connaissaient toute la littérature, l'opéra.
L'opérette. Il y avait en même temps peut-être un petit fond de mélancolie chez lui, je sais pas.
Ah oui. Oui,
je sens
oui.
ça parfois quand je regarde, quand je l'écoute.
Oui, oui, il est parti au bon moment. Il ne reconnaîtrait pas du tout la société dans laquelle nous sommes. Mais c'était un type qui avait un talent encyclopédique. Il savait tout faire. Tout à l'heure, je vous parlais de ses imitations. C'était formidable. Ouais. Et c'était un grand imitateur, un très bon chanteur, un comédien tout à fait honorable. Et il avait écrit une très jolie pièce que j'avais beaucoup appréciée, qu'il a jouée à la Bichaudière, qui s'appelait Une case de vide, qui pour moi était un chef-d'œuvre de théâtre de boulevard.
Voilà, Jacques Martin, donc on peut revoir évidemment ses émissions de télévision, mais c'était vraiment aussi un des personnages qui ont jalonné cette époque du spectacle, du music-hall, de ce qui a disparu aussi, on peut dire, d'une certaine façon aujourd'hui, c'est le music-hall télévisuel.
Oui, 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 parce que là aussi, on a serré les boulons et on fait des émissions, vous le savez très bien, des émissions, des talk-shows. Donc, ouais. on a une table et trois fauteuils. J'avais d'ailleurs écrit...
Les cartes entières, c'était autre chose.
C'était autre chose. Et je me rappelle d'avoir fait un sketch dans l'oreille en coin là-dessus, où c'était un nouveau producteur de télé qui disait, quel est votre projet? Il y a des décors? Non, j'en veux pas. Alors, j'en ai un autre avec une table et trois chaises. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est... Voilà. Et donc, la SFP a fermé. On était au but de Chaumont, on avait tout ce qu'on voulait. On avait tous les costumes, les décors, c'était formidable, on pouvait faire des vraies émissions.
En tout cas, vous avez d'une certaine façon, au moins pour une part, relancé les choses en créant sur Paris Première cette très populaire revue de presse. Hein. Vous êtes un peu à l'origine de cette émission.
Je suis à l'origine, oui, avec Jacques Expert et Christopher Baldelli, qui à l'époque dirigeaient les chaînes thématiques du groupe M6. Et un jour, ils sont venus me voir au théâtre. Ils ont beaucoup apprécié le spectacle du Théâtre des Deux Ânes. Et Jacques et Christopher m'ont dit, il faut qu'on fasse une émission de chansonnier à la télé. Et donc, c'est Jacques Expert qui a trouvé le titre, la revue de presse, et c'est moi qui ai un peu ordonnancé tout ça, avec telle et telle personne assise, et puis ce qu'on appelait les runners qui venaient intervenir comme ça pendant l'émission.
Et Florence Brunol qui fait quelquefois des numéros dignes du grand musical. Hein.
Dont l'un des derniers, une Rachida Dati, plus vraie que nature.
Alors, tiens, pour évoquer l'actualité... un peu triste actualité d'un monde qui nous semble malade pour mille raisons, eh bien j'ai ressorti Offenbach, parce qu'Offenbach il nous fait toujours du bien. Et vous savez, il y a dans La Belle Hélène, c'est aussi un hommage à Jacques Martin, ce trio patriotique où les trois rois se lamentent à cause d'une épidémie qui touche la Grèce tout entière.
Lorsque la Grèce est un champ de carnage, quand on immole les maris, tu vis heureux au sein de ton ménage, au sein de ton ménage. Tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays.
Voyez pourtant ce qui se passe.
l'époux lâche l'épouse et l'épouse à son tour de l'époux déserte l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse?
Lorsque la Grèce est un champ de carnage, la Grèce est un champ de carnage,
les marines,
je vis heureux au sein de mon ménage. Je me fiche de mon pays, je fiche pas mal de mon pays, je fiche pas mal de mon pays, de mon pays, de mon pays.
Et ces malheureux accidents dépasseront l'être en présent.
Dans l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par 100 000.
On les comptera par 100 000. Si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous d'embarras,
allons à dépêcher sa presse. Regardez l'état de la Grèce.
Mais elle va fondre, la Grèce.
C'est une immense bacchanale, et Vénus, Vénus Astarté anime la ronde infernale, tout est plaisir et volupté, vertu, devoir, honneur, morale, par le flot tout est emporté. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps.
Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Je comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps.
Allons, immole-toi.
Allons, immole-toi.
Il faut subir, subir la loi. Il faut subir, subir la loi.
Immole-toi, immole-toi.
Il chancelle.
Il chancelle.
À peine il respire,
j'expire.
Au genre humain, il faut rendre service. Immole-toi quand tu devrais souffrir. Sauvera par ce beau sacrifice les Ménélas de l'avenir.
Au genre humain, au pour genre toi rendre service, m'immoler non, ça me ferait souffrir.
Sauvera par ce beau sacrifice les Ménélas de l'avenir.
Des dieux, l'immortelle sagesse me réserve drôle d'emploi. S'il en faut un à la déesse, pourquoi faut-il que ce soit moi? Son mari devrait lui suffire.
Il blasphème dans son délire. Il blasphème dans son délire. Il blasphème dans son délire.
Ah, ah, ah. Pour toi rendre service, immole-toi sans qu'il devrait souffrir. Et sauve-toi par ce beau sacrifice, les Ménélas de l'avenir, les Ménélas de l'avenir, les Ménélas de l'avenir, les Ménélas de l'avenir.
Oui, Willy Clément, Michel Roux, Duvalex dans ce trio patriotique extrait de La Belle Hélène d'Offenbach. Alors dans La Belle Hélène, c'est une épidémie amoureuse qui contamine toute la Grèce. Aujourd'hui, c'est un peu moins drôle.
Mais il blasphémait déjà. Il y avait des blasphèmes déjà.
Oui, le théâtre des Deux Ânes est à l'arrêt, comme j'imagine.
Il est à l'arrêt, on a essayé de le réouvrir et puis finalement on ne l'a pas réouvert puisqu'il y a eu décision sur décision contradictoire et c'est normal avec l'évolution des choses. Donc on espère le réouvrir quand je ne sais pas.
Voilà, donc voilà, bon, d'un côté les attentats, de l'autre l'épidémie, c'est pas un peu trop pour le chansonnier tout ça?
Ça fait un peu beaucoup et c'est vrai que c'est difficile actuellement de vivre notre époque.
Voilà, mais vous avez eu la gentillesse, bah, justement pour terminer, bah, d'écrire pour nous un petit billet à la façon des chansonniers justement sur cette double et terrible actualité, Jacques Maillot.
Oui, Benoît, faire cohabiter au quotidien le Covid et l'islamisme, c'est un peu ardu. Je vous cache pas que c'est ardu. Le premier vous pompe l'air et le second, bah, il vous prend la tête. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et compte tenu du principe de précaution qui est l'alpha et l'oméga des démocraties modernes, il faut être prudent, comme on nous le rappelle chaque soir, dans le coin haut de notre petit écran. Soyez prudents. Par exemple, l'autre jour, j'ai été prudent, je rentrais de mon Auvergne natale, j'ai voyagé avec le train Clermont-Paris, à côté d'un musulman très sympathique qui m'a parlé de la qualité et de la coutellerie tiernoise. Pourquoi pas ? Avant de me dire qu'il était un fervent admirateur d'Alexandre Vialat, je dis pourquoi ? Il me dit parce qu'il terminait toutes ses chroniques par ce gimmick, et c'est ainsi qu'Allah est grand. Alors évidemment, j'étais un peu interloqué et quand je suis descendu du train, j'en ai parlé directement au ministère de l'Intérieur qui m'a dit vous êtes peut-être un cas contact, Jacques, vous devriez vous faire tester. Alors je suis allé dans un centre de dépistage, on m'a demandé si je connaissais Émile Combes, le petit père Combes, j'ai dit oui, Jean Jaurès, oui, Valdec-Rousseau, oui, aussi, enfin c'est, oui, je connais, oui, absolument. Ils m'ont dit c'est très bien, alors après on m'a prélevé un poil de ma barbe blanchissante et ils m'ont dit on vous tient au courant. Alors comme nous sommes en France et qu'on est souvent guéri, vous savez, avant de connaître son diagnostic, 11 jours plus tard, j'ai eu le résultat, on m'a dit vous n'inquiétez pas, c'est rien du tout, vous êtes islamo-négatif. Bref, la cohabitation n'est pas simple. J'en ai parlé d'ailleurs au prophète marseillais, le célèbre professeur Raoult, auquel je crois vraiment avec beaucoup de ferveur. Il m'a dit, vous savez, Jacques, le meilleur traitement contre ces deux pathologies, c'est encore la lumière. Je dis, pourquoi ? Il dit, parce que la lumière, ça vous permet de faire le plein de vitamine D. On s'est aperçu que la vitamine D, c'était une barrière très solide contre le Covid. Et il m'a dit, ensuite, les lumières, vous le savez très bien depuis Voltaire, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour vous éclairer l'esprit.
Merci Jacques Maillot de cette conclusion fantaisiste, comme il se doit pour cette venue à l'occasion de la sortie de votre livre Pointe d'actu aux éditions de Boré. 30 ans de chroniques persiflantes avec les jolies illustrations, souvent très drôles, hein, de Frédéric Deligne.
De Frédéric Deligne, qui est un garçon que j'ai connu il y a très très longtemps dans un journal qui, hélas, a disparu, qui s'appelait Le Hérisson.
Et oui.
Et que j'ai retrouvé après avec grand plaisir dans le journal La Montagne. Et c'est moi qui l'ai recruté pour qu'il vienne aussi avec nous à la revue de presse.
Voilà, alors en attendant de vous revoir sur scène, on peut en tout cas vous lire. Et puis on va se quitter avec Marie-Paul Bell qu'on a évoqué.
Ah, formidable.
Wolfgang et moi, je ne sais pas si elle le chantait déjà à l'époque.
Absolument, voilà. Avec son piano sur scène.
Merci Jacques Maillot.
Merci Benoît, merci beaucoup.
Fini la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Wolfgang et moi, on s'aimait bien quand même. Lui était fort à bras, moi j'étais forte en thème. Aujourd'hui, sous son nom, mes œuvres sont jouées. Tout ça parce que je n'osais pas lui dire
non. Quand il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais ses symphonies, bidon. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat. Il faisait le joli cœur avec mes droits d'auteur. Qui Figaro et patati patati patata et patati patati patata et patati patati patata et patati patati patata. Quand papa recevait les marquises au clavecin, Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ces fourberies à lui valaient de sens capin, et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Wolfgang et moi, c'était le bon vieux temps. Il jouait les Don Juan, moi je le
Wolfgang et moi, c'était bien sûr Marie-Paul Bell dans cette jolie chanson de Françoise Malé-Joris qu'on écoutait à l'occasion de la visite de Jacques Maillot venu à ce micro pour nous parler de Pointe d'Actu, illustré par Frédéric Deligne, un livre de chronique qui vient de paraître aux éditions de Boré. Thank you. Diane Anderson et Daniel Blumenthal dans ce Cakewalk d'Alexandre Tansman, excellent compositeur franco-polonais de l'École de Paris.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis tiens, la semaine dernière, je vous avais fait écouter quelques chansons sur le téléphone, parce qu'en période de confinement, ça reste le meilleur et peut-être parfois le seul moyen de nous voir, de communiquer et de passer des moments agréables. J'en ai encore retrouvé une autre de ces chansons. C'est Tino Rossi qui chante « Téléphonez-moi, chérie ».
Si votre ciel se fait soudain moins bleu, téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. Et si parfois la vie vous lasse un peu, téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. Je suis pour vous l'ami à qui toujours on avoue bien simplement ses joies et ses peines, comme c'est long, trop long, oui tout un jour, en moi de vos bras j'attends la plus douce des chaleurs. Mais si le ciel pour vous est toujours bleu, téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. Un jour sans votre voix est un jour malheureux. Téléphonez-moi chérie, téléphonez-moi. L'ami à qui toujours on avoue bien simplement ses joies et ses peines, qu'ils seront longs, trop longs pour moi les jours, n'ayant plus le lien charmant de vos bras qui m'enchaînent. Vers d'autres cieux, si vous partiez là-bas, ne m'oubliez pas, chérie, téléphonez-moi. Mais si vous vouliez revenir comme autrefois, ne me téléphonez pas, revenez vers moi.
Revenez vers moi, ce sera après le confinement. Pour l'instant, c'est Téléphonez-moi, chérie, comme le chantait fort bien Doc Tino Rossi dans cette chanson de Jacques Ledru. Mais si le confinement, c'est le téléphone, le confinement, pour certaines personnes, ce sont aussi les provisions, les stocks que chantait déjà l'excellent Georgius au mois de décembre 1940.
Madame Duchenot est d'un âge où l'on fait ce que l'on doit, et les femmes de ménage chez de bons petits bourgeois. L'autre jour, elle entend son maître dire « Bobonne, j'ai appris qu'on va manquer d'allumettes, de tapioca et de riz. Les chaussures vont faire défaut, rares seront les haricots. On ne trouvera plus de pieds de veau, on va manquer de billets de métro. » Cette brave madame du schnock-toc en a reçu comme un choc-toc, et comme elle n'est pas loufoque-toc, elle s'est constituée un stock-toc. Elle a du sucre et de l'essence, du yaourt et du beurre rance, et de l'huile gominolée pour mettre dans sa chicorée. Cette brave madame du schnock-toc, au besoin sait faire du troc-toc, un camembert contre un boc-toc, et elle augmente son petit stock-toc. Comme tout le monde, elle fait la queue, n'importe où pour n'importe quoi. Elle a toujours une peur bleue, demander de quoi que ce soit. Elle a de tout, des verres de lampe, des nouilles, des lames de rasoir, des cachets contre les crampes, de l'huile et des suppositoires. Au plafond, elle a vendu 3 langoustes et 2 morues. Elle a 100 grammes de beurre bien frais qui trempote dans son bidet. Cette brave madame du schnock, toc, au mois d'août a eu un choc, toc. Il n'y avait plus d'eux à la côte, toc. Vite, elle s'en est fait un stock, toc. Elle les cacha, je le présume, sous son édredon en plume. Elle a eu au bout de 3 semaines 12 poussins, c'est un coup de veine. Et maintenant, madame du schnock, toc, est réveillée par le coq, toc, qui est perché sur son boc, toc. Elle devient tout à fait loufoque, toc. L'armoire s'emplit de marchandises, y a des sardines sous ses draps, du saucisson sous ses chemises, de l'aspirine dans ses bas. Elle en a perdu la tête, y a trop de choses d'accumulées. Hier, comme c'était sa fête, sa famille est venue dîner. Elle a eu un mal de chien, les produits du pharmacien sont avec ceux de l'épicier, du bazar et du charcutier. Cette brave madame du schnock, toc, s'est embrouillée dans ses stocks, toc. La famille a eu un choc, toc, le pneu était plutôt toc, toc. Un roast beef à la vaseline, des fois à la naphtaline. Et comme liqueur digestive, un petit verre d'eau sédative. Cette brave madame du schnock, toc, a fini la nuit au bloc, toc. Elle était devenue loufoque, toc. On va liquider ses stocks, toc.
L'irrésistible Georgius aux heures sombres de l'occupation. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Depagraf, réalisation Christine Amadou. Et la semaine prochaine, j'accueillerai Jacques Pessy et Arlette Rébora pour parler de Francis Blanche et Pierre Dac. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.